Parlons Sport sur RTVFM.
RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur RTVFM, la radio qui parle de sport le lundi soir de 18h à 19h30 avec ce soir un invité un peu particulier puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du patron du sport vauclusien, monsieur Roland Davot, président du comité olympique départemental, comité départemental olympique et sportif de Vaucluse.
Bonsoir.
Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Valérie, ma coéquipière habituelle, devrait pas tarder à arriver. Elle a préféré faire du business plutôt que de venir vous parler dans le poste ce soir. Le technicien, ce soir, on n'a plus Théo. Ça y est, Théo nous a lâchement abandonné. Il est reparti du côté des cigognes, là-haut.
C'est pas malheureux.
Ben si, je suis malheureux parce que j'aimais bien mon petit Théo.
Attends, pas le même visage.
Non, pas le même visage. La technique ce soir, donc c'est notre ami Flo qui va s'y coller. Attention, Flo, c'est le patron de la radio, donc il faut faire attention. Et puis on a un jeune stagiaire. Dis bonjour au micro, le stagiaire.
Bonsoir.
Allez, au programme de ce soir, on va longuement parler de l'actualité du sport avec notre invité, avec Roland. Et puis en deuxième partie de l'émission, on reviendra sur les résultats et sur les faits marquants du week-end. Il y en a eu quelques-uns en rugby à 13. On aura sûrement Jérôme Alonso qui nous appellera pour nous parler de la défaite de Carpentras du côté de Pia. Et puis on parlera de rugby, de basket, de hand. Et puis normalement, on devrait arriver jusqu'à 19h. Avec ces sujets-là, et tout de suite, on va notre invité du soir.
Ouais. Ah. RTV Sport, l'invité du soir.
Allez, l'invité du sport, du soir, on vous l'a présenté, c'est Roland Davot. Roland, content de t'avoir enfin au micro depuis le temps qu'on essaie de t'avoir depuis le début de la saison. Tu es un homme particulièrement pris en ce moment, me semble-t-il, et tout le temps d'ailleurs.
Comme beaucoup de bénévoles et dirigeants sportifs, c'est vrai que l'actualité et quand on souhaite être présent sur le terrain, ça demande un certain engagement, mais je viens régulièrement quand même
c'est
chez vous.
On ne t'avait pas vu cette année encore.
Pas encore, mais
voilà.
Je suis là.
Parfait, Roland. Avec toi, on va évoquer des sujets un peu d'actualité, malheureusement. On va parler de l'influence de cette épidémie, le coronavirus, qui a une vraie influence dans le sport, qui va en tout cas en avoir une dans les semaines qui viennent, probablement. Avec des compétitions qui risquent d'être ajournées, annulées et puis on va voir ça. On a aussi un sujet brûlant, mais très très brûlant, c'est ce qui se passe dans le sport avec les filles et même avec les garçons d'ailleurs, ces affaires d'abus sexuels qui petit à petit émergent à peu près dans tous les sports. Il y a un problème avec mon micro, voilà. Qui émerge dans le sport ces dernières semaines, et notamment au travers des sports de glace avec l'affaire Gaillagué. Et puis on parlera aussi des jeux, puisque je sais que tu as pour 2024 les Jeux de Paris, tu es le référent, me semble-t-il, pour le comité d'organisation. Donc on va évoquer tous ces sujets avec toi jusqu'à, on a à peu près jusqu'à 18h40, 18h45. Donc on va pouvoir faire un large tour d'horizon avec toi, Roland. On attaque par le sujet d'actualité brûlant du moment, ce fameux coronavirus. Ça a quelle influence pour l'organisateur d'événements sportifs que vous êtes au comité départemental olympique et sportif?
C'est assez foudroyant, hein, parce que ça s'est sorti il y a quelques jours. On pensait être épargné par cette épidémie, et puis on se rend compte que les frontières n'arrêtent pas forcément les épidémies. Donc, comme n'importe quel mouvement, que ce soit la culture, le salon de l'agriculture, tout un tas qui touche la population et la population mondiale, forcément on doit s'interroger là-dessus, sur l'ensemble des rassemblements. Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut rester calme, dans un premier temps, bien parce sûr. Que
il y a la psychose et ne pas la provoquer
et,
aussi.
Et c'est trouver l'équilibre entre la responsabilité et la psychose. Il faut pas, voilà, il faut qu'on soit responsable. À un moment donné, notre passion qui nous dévore doit parfois être raisonnée. Donc je suis au courant là, toutes les 12 heures avec les services de la préfecture des différentes. Aujourd'hui, il n'y a aucune annulation sur le département de Vaucluse, mais peut-être que dans 12 heures, je vous tiendrai d'autres propos. On est vraiment, on suit l'évolution et on peut se contredire assez rapidement si jamais, ce que je n'espère pas comme tout le monde, les choses évoluaient négativement.
Est-ce que vous seriez appeler à par exemple annuler l'ensemble des rencontres sportives ou même simplement d'événements dits sportifs. Est-ce que tu as la main là-dessus, toi, ou c'est ça sera une décision préfectorale et relayée par les fédérations?
Alors, on peut de nous-mêmes décider d'annuler un certain nombre d'événements, mais la décision vraiment d'autorité, c'est le préfet sur le département qui peut l'avoir, ou après à des échelons plus grands, le gouvernement. Je crois que c'est vraiment un sujet et on ne sait pas, on n'a pas perspective de temps de se dire dans 6 mois ou dans 1 mois ou dans 3 semaines les choses vont être réglées. Je pense que c'est ça aussi qui crée l'anxiété là-dessus. On parle de potentielle annulation des Jeux Olympiques de Tokyo.
J'allais y venir, ouais.
Il y a déjà un certain nombre d'événements internationaux, des grands prix qui ont été annulés.
Ouais, le Grand Prix d'Australie notamment.
Voilà, je crois
le Grand Prix de Chine de Formule 1 en tout cas, et on parle d'annuler le Grand Prix d'Australie aussi de Formule 1 qui devait débuter la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Chacun, je crois, ou peut imaginer les enjeux économiques qu'il y a sur ces grands championnats ou ces grandes manifestations, mais je crois que l'économie du sport c'est quelque chose d'important. Mais que par rapport à la santé et au décès de centaines, maintenant de milliers de personnes, je pense qu'il faut qu'on sache, à un moment donné, apporter un peu de raison là-dessus. Et que oui, s'il faut annuler, il faudra qu'on allume un certain nombre de manifestations internationales, mais peut-être locales.
Comment expliquer dès lors que, malgré le risque d'épidémie, malgré le risque de propagation, certaines fédérations ou certaines ligues, je pense notamment à la ligue de football là qui ce week-end la mairie de Paris annule le marathon, je crois, ou le semi, et dans le même temps autorise la tenue de Paris Saint-Germain Dijon. Est-ce que le foot protège plus que la course à pied ou est-ce que les intérêts sont différents juste?
Alors je ne suis pas médecin.
Ah bon.
Non, mais il faut faire attention.
Ouais,
parce
bien
que
sûr, bien sûr.
On devient tous experts en
bien
tout.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Et j'ai écouté un certain nombre de communications sur le sujet. Semble-t-il, la transpiration serait une façon qui accentue la contamination et que l'activité sportive et notamment la course à pied, avec là plusieurs milliers de personnes qui allaient courir. Peut-être que les supporters transpirent aussi, hein, mais j'ai pas l'ensemble des connaissances et je pense que suivant où ça peut avoir lieu au niveau géographique, là où semble-t-il l'Oise est un département où la contagion est plus importante qu'ailleurs en France. Donc je fais confiance aux services de l'État, notamment aux services de la santé du ministère, à l'ARS chez nous en Vaucluse et sur la région pour avoir vraiment les éléments pour permettre à l'ensemble de la population de ne pas prendre de risques. J'étais avec les services de la préfecture il y a encore quelques minutes au téléphone pour me tenir au courant, parce que forcément il y a des organisateurs qui nous sollicitent, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense qu'aujourd'hui il faut rester calme, mais chaque jour, s'il y a besoin, on fera une communication là-dessus. Je pense que c'est pas la peine de nous sursolliciter dès qu'on aura une information à communiquer. Ça me paraît responsable de la part d'organisateurs de se poser la question. Mais dès que, si il y avait à débloquer la situation et à interdire un certain nombre, voire la totalité des manifestations, ça serait fait. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'en est pas question.
Je profite de l'arrivée de Valérie pour la saluer. Bonsoir Valérie.
Bonsoir, je t'ai écouté à la radio, je te remercie.
Oh bah écoute, avec plaisir.
Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Et puis bonsoir à Alexandre.
Revenons avec Roland et sur un autre sujet tout aussi brûlant, parce que le coronavirus en est un, mais Un autre sujet nous interpelle beaucoup en ce moment, c'est ces histoires d'abus sexuels qui émergent dans le sport. On avait l'impression que le monde du sport était une espèce de milieu protégé, et puis finalement on s'aperçoit que quel que soit le sport, quel que soit le niveau et quelle que soit la discipline, on voit des affaires émerger. Qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, quel est ton regard sur ces problèmes-là, Roland?
Déjà, quand je m'exprime sur le sujet, je pense d'abord aux victimes.
Bien sûr, forcément.
À leur famille. Et je pense que la libération de la parole, elle est fondamentale. Parce que quand on est victime de ce type d'acte, le garder pour soi toute sa vie, je peux imaginer que ça doit être, si j'essaie de l'imaginer, quelque chose de dingue. Et que le monde du sport aujourd'hui vit une crise très forte. Parce que oui, on a peut-être cru, et on a cru, qu'on n'était pas concerné, que le sport était un lieu comme je le voudrais.
Bien sûr.
Où
les conneries s'arrêtent à la
ni
porte.
Ni homophobe, ni sexiste, mais que si on regarde maintenant plus tranquillement les choses, il n'y avait pas de raison que les violences sexuelles et potentiellement des actes de pédophilie aient lieu aussi dans le sport. Donc il faut aujourd'hui en prendre conscience et que conjointement le monde fédéral prenne conscience de la situation et propose un certain nombre de choses, mais qu'aussi on puisse le faire avec la justice et les services de l'État. C'est vrai que le lien de confiance qu'il doit y avoir entre les familles et les clubs sportifs qui accueillent les jeunes, il est fondamental. Il ne faut surtout pas que ce lien se casse. Mais que nous, monde du sport, il faut qu'on fasse notre révolution et qu'on donne à l'évidence plus de gages de qualité et comment je pourrais dire d'honorabilité des personnes qui encadrent et qui sont dirigeants des clubs sportifs. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le feu des projecteurs sur cette question-là, ce qui est une bonne chose, ça libère la parole. Il y a aussi un effet forcément fort sur ces sujets et qu'il ne faut, à mon sens, il faut qu'on agisse, mais dans la précipitation, il faut qu'on agisse dans la durée pour que ces actes-là s'arrêtent, et qu'il y a eu à l'évidence aussi de la part de certains sports et dirigeants le fait d'être un très bon éducateur ne doit en aucune façon accepter des gestes qui sont
justement on a eu des alertes. Je me rappelle il y a une quinzaine d'années, il y avait une athlète dont j'ai oublié le nom, une lanceuse me semble-t-il, qui avait mis une alerte là-dessus en disant attention, ça se passe
dans le judo aussi.
Ouais, dans le judo, on sait qu'à l'INSEP notamment, la fabrique de champions en France, là, il y a plein d'histoires comme ça qui étaient connues du monde du sport. Comment on a pu laisser perdurer cette espèce de système là?
Je pense que malheureusement, sous travers de pseudo-traditions dans le sport, on a pu faire des actes de bizutage.
Là, on ne parle pas de bizutage parce que le bizutage, je connais, mais les agissements de ce fameux entraîneur de patinage, par exemple, c'est plus du bizutage,
c'est de l'agression sexuelle.
C'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité de l'encadrement du sport en France, il est fait par des bénévoles, et que tout le monde pense qu'on contrôle le casier judiciaire, notamment des professionnels et des bénévoles qui sont dans une association, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors c'est plus simple de contrôler un professionnel, parce qu'il a une carte professionnelle, que s'il y a un jugement, un bénévole, on ne demande pas. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on devra évoluer. C'est vrai que quand on vient donner de son temps à une association, il ne faudra pas prendre mal qu'on contrôle aussi les références de la personne. Parce que en faisant ça, ça mettra plus à jour les mauvais comportements. Et qu'il y a aussi une formation qu'on doit avoir, jusqu'où on peut apporter de l'accompagnement et de la tendresse à un athlète, notamment jeune, quand il est triste, quand il a raté, jusqu'où c'est un geste d'éducateur, et à quel moment est-ce qu'on doit aller dans les vestiaires des jeunes femmes, des jeunes hommes. Donc il y a tout un tas de façon de faire qui n'était pas, quand on est pas biaisant et qui pouvait peut-être s'entendre. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait un comportement.
Alors moi qui étais
sans ambiguïté.
Moi qui étais un jeune éducateur, j'ai commencé à entraîner, je devais avoir 16 ou 17 ans. À mon époque, et j'en ai 53 aujourd'hui, à mon époque, on rentrait nous dans les vestiaires, on prenait même la douche avec les gamins. Chose qui est complètement inimaginable aujourd'hui. On est même terrorisé à l'idée de se retrouver seul avec un groupe de gosses dans un vestiaire. Donc ça, certains sports ont réglé ça. Nous, au rugby, par exemple, on a réglé ça. Maintenant, on est plusieurs éducateurs par équipe. Moi, j'ai parfaitement confiance en mes collègues. Mais maintenant, c'est rentré dans les mœurs de ne jamais être seul, ne serait-ce que pour envoyer un bon signal aux parents. Mais par exemple, parce que ça, les pratiques sportives en elles-mêmes devraient pas évoluer parce que le patinage artistique dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un sport qui amène ce contact, cette promiscuité et est-ce qu'à un moment on va pas être obligé de changer les règles du sport en lui-même?
Enfin là, on parle pas seulement de caresses, on parle là, c'est vraiment de relations sexuelles qui ont été volées à
bien
des
sûr.
Jeunes athlètes. Donc il y a quand même l'influence de la personne adulte sur un enfant et la peur après je raisonne pas tout à fait pareil. J'estime que l'enfant donc qui a subi d'ailleurs c'est prouvé hein, l'enfant qui subit ces violences, enfin ces violences c'est pour eux, hein, ces relations sexuelles volées, il a honte et il ne veut pas le dire parce qu'il déjà il a peur. Il a peur pour sa place parce que c'est un sportif de haut niveau en général aussi, hein, Roland. Donc il a peur pour son futur, sur son futur avenir, et il a peur aussi quelque part. Il a une honte en soi. C'est souvent comme ça, pour avoir travaillé justement avec des personnels, des gens comme ça. C'est souvent l'enfant a peur de le dire. Pour lui, il est sale à l'intérieur. Mmh. Et c'est vrai que c'est souvent adulte, des fois 10, 15 ans après, qu'il arrive avec une thérapie à sortir, à extérioriser ce mal qui le ronge de l'intérieur. Et c'est comme ça que beaucoup d'affaires sont sorties. On parle justement de l'athlète de patinage, mais dans le judo, dans le tennis, il y a eu dans le tennis aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ça le problème, il est là, et beaucoup savaient, adultes, savaient ce qui se passait déjà, mais ils se sont tus. Et c'est ces personnes-là qu'il faut vraiment sanctionner. C'est vraiment quand même, je sais pas si c'est quand même assez douloureux quand même pour un enfant de vivre ce truc-là.
À l'évidence. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les sports peuvent être concernés.
Tout à fait, toutes les disciplines.
Nous avons un cas dans le rugby avec l'association qui s'est créée, où un rugbyman
qui était violé sur Facebook là
pendant plusieurs années par son entraîneur qui le soir après allait boire l'apéritif avec ses propres parents. Comment on peut imaginer un seul instant que celui qui est votre bourreau, il boit l'apéro avec vos parents après à de tels actes, quand on peut seulement imaginer le traumatisme que ça peut avoir. En tout cas, il porte un message avec cette association avec lequel j'étais en contact depuis plusieurs mois pour pouvoir aussi parler peut-être des fois de façon vive de la réalité de ce que c'est que l'intégrité de son corps. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve, j'allais dire, la racine du mal. Il faut qu'on se regarde en face pour pouvoir vraiment proposer des choses constructives pour que on arrive au plus jamais ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse notre propre analyse de la situation sans équivoque. Et que c'est vrai qu'on connaît tous l'autorité nécessaire qu'il faut à un éducateur dans son équipe et la position dominante
bien sûr.
Qu'a l'éducateur et cette force qu'il a sur ses athlètes. Et comment, quand on est dans des intentions malsaines, on peut utiliser avec des conséquences terribles cette prédominance qu'a l'athlète, voire même dans un moment, je pense aux adolescents, où parfois l'entraîneur accompagne presque autant que les parents.
Souvent même plus. Mais
je
ne
sais pas le
sport,
dire, mais
ouais.
Dans ce moment-là, mais comment celui qui doit accompagner vous brise à ce moment-là. Donc on doit vraiment s'interroger Et les propositions que nous avons déjà mises sur la table, c'est sur trois axes. C'est l'information et la sensibilisation, parce que se retrouver isolé et de pouvoir libérer la parole, pour, il faut qu'on parle de ces sujets-là. C'est vrai qu'on est sur l'actualité, il faut qu'on parle aussi d'entraînement, tout
bien
ça.
Sûr.
Et je pense qu'il faut qu'on parle et de savoir parler de ces choses-là pour et certainement, malheureusement, d'autres. Alors, heureusement et malheureusement, je tiens les deux discours parce que je préférerais qu'aucune affaire ne sorte, mais je pense qu'il est nécessaire que si ça s'est passé,
que ça sorte.
Il faut que ça sorte.
Bien sûr.
Et derrière, il faut qu'on forme les acteurs. Que ça soit les dirigeants ou les éducateurs, il faut qu'il y ait une formation pour savoir qu'est-ce que je peux me permettre. Je sais que par exemple dans la gymnastique, où il y a vraiment des très jeunes athlètes, ils ne font plus la bise à leurs athlètes. Ils checkent en début d'entraînement, pour éviter aussi un certain nombre de contacts trop importants. Et c'est vrai que ne pas se retrouver seul dans un massage, dans ce genre de choses, seul un éducateur ou un accompagnant, un dirigeant et la sportive ou le sportif, c'est aussi important pour éviter de se retrouver dans une... comment je pourrais dire, une promiscuité qui serait où il y aurait pas un double regard là-dessus. Donc je pense qu'il faut pas qu'on tombe dans la suspicion
à tout craint,
systématique,
à tout craint.
Oui,
c'est, ça va être un juste équilibre.
Mmh. Oui, c'est pas évident,
parce que d'un autre côté, briser la vie d'un éducateur qui n'aurait rien fait parce qu'il y aurait une suspicion
c'est ça
très
aussi.
Forte,
c'est terrible.
Oui.
Est-ce qu'il faut avoir des mauvais coupables parce qu'il y a beaucoup de personnes? C'est des sujets qui seront particulièrement fin, et je mesure en disant ça que la personne qui pourrait m'entendre ce soir et qui est victime de ce type pourrait se dire il vaut mieux qu'une personne soit
Chopée avant d'avoir fait que
qu'il n'a rien fait,
que ne pas choper.
Et d'un autre côté, il faut mesurer que quand on est encadrant, qu'on soit professionnel ou bénévole, mais il y a des postures qu'il faut avoir. Voilà, on n'est pas parents, on n'est pas de la famille. Il y a des gestes qui sont du domaine du privé et il y a des gestes qui sont de l'encadrement et des mots qui sont de l'encadrement sportif. Donc il faut qu'on remette tout ça dans le bon ordre parce que nous rêvons tous d'un sport qui permette à la jeunesse de s'épanouir et qui ne doit en aucune façon être brisé par des actes de ce type.
Est-ce que ces modules vont être proposés justement aux futurs encadrants?
Oui. Et j'allais dire, le troisième axe, c'est l'accompagnement. Je pense qu'on doit vraiment accompagner. Mais en ce moment, j'étais encore cet après-midi avec les services du préfet, on passe nos journées ensemble en ce moment, pour pouvoir vraiment proposer quelque chose, à la fois sur les signalements, que ça soit fait par le monde fédéral ou aussi avec le procureur de la République, mais aussi comment on peut accompagner pour que le monde sportif fasse sa révolution sur ce sujet-là et que ce qui est caché est toujours dangereux. Donc il faut qu'on libère la parole, qu'on accompagne, qu'on forme. Après, moi, je suis pas à la justice, mais c'est vrai qu'il est... Comment on peut accepter, quand on est parent, d'apprendre que quelqu'un qui encadre nos enfants avait été condamné pour pédophilie dans un département ailleurs?
Oui,
mais
ça, c'est pas normal.
C'est incompréhensible.
Bien sûr.
J'ai vu, comme tout à chacun, à la télévision, ce type de reportage. On se dit, mais comment c'est possible, avec l'ensemble des moyens que nous avons, que ça soit pas possible de déceler, d'empêcher quelqu'un.
Est-ce qu'il serait pas normal que, au moment où on souscrit une licence éducateur, je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai renouvelé une licence éducateur. Est-ce qu'il y aurait pas une possibilité d'obliger une autorisation? On nous demande
un casier judiciaire.
On nous demande un certificat d'un test à l'effort qui est quasi inutile pour entraîner les gamins de 12 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre l'accent et ne débloquer la licence que lorsque on est clair sur ce genre de problème, quel que soit le département, quel que soit le pays, j'allais te dire.
Ce qui est important, c'est que chacun soit dans sa fonction, contrôler un casier judiciaire, le produire. Alors je veux pas être trop technique, mais il y a plusieurs niveaux de casier judiciaire. Et celui qu'on produit et qu'on peut donner comme ça, il n'y a rien dedans. Donc il faut aussi que les services de l'État soient suffisamment équipés pour systématiquement, oui, que quand on crée une association, quand il y a une modification, il y a les encadrants, mais il y a les dirigeants aussi.
Bien sûr.
Où parfois on sait comment on fonctionne. Il y a aussi les volontaires qui sont pas forcément dans les statuts. Il faut qu'on puisse donner et vérifier l'honorabilité de l'ensemble des personnes qui sont dans le spectre d'un club pour pouvoir s'assurer que tout le monde, et ça paraît, tout le monde pensait qu'on le faisait déjà. On le fait pour les professionnels, mais on ne le faisait pas plus globalement. Donc aujourd'hui, il faut qu'à la fois, peut-être qu'il y ait une évolution aussi législative qui permette de le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de nos enfants est normal qu'on donne ce type de document. Il faudra aussi qu'on accompagne ceux qui veulent devenir bénévoles, qu'ils ne s'offusquent pas parce qu'on va demander un certain nombre de documents qui pourraient choquer en disant, attendez, moi je viens donner un peu de mon temps, en plus on me demande mon casier d'usière, mais vous croyez que, c'est pas on croit que, c'est qu'il faut qu'on, aujourd'hui, qu'on garantisse ce pacte de sécurité entre les familles, les enfants que nous accompagnons et les personnes qui évoluent dans le monde associatif.
Mais au niveau de l'éducation nationale, quand tu vas travailler pour eux, tu dois délivrer un bulletin.
Pour autant, ça n'empêche pas les conneries.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais nous qui intervenons, on doit délivrer un bulletin. Donc, je vois pas, ça ne nous gêne pas. On n'est pas connus, on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas à s'offusquer.
C'est sûr.
Il est tout à fait normal. On va vers un public de jeunes, comme disait Roland. Donc, il y a quand même une responsabilité de la part de l'éducation nationale. Il y a une responsabilité de tout le monde. Donc, moi, je suis favorable à ça.
Pour moi, il s'agit d'être humble face à la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, je suis le représentant du sport départemental et je dois faire face à une situation que j'avais moi-même pas mesurée. Donc je pense qu'on doit être humble et qu'on doit être aussi farouchement déterminé à changer les choses maintenant. Mm-hmm. Mais dans la durée, quand les projecteurs de la aller malheureusement sur d'autres sujets, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'il faudra qu'on arrête. Faut qu'on soit farouchement déterminé. Je peux vous assurer qu'avec toute l'équipe qui m'entoure, on l'est parfaitement avec les services de l'État et que voilà, c'est notre responsabilité presque historique de devoir reprendre les choses en main.
Est-ce que ces différentes affaires, et puis après on va passer sur un sujet un peu plus léger, mais est-ce que ces différentes affaires jettent pas l'opprobre sur le sport, sur le fameux un esprit sain dans un corps sain, etc. Et le sport, c'est la base de l'équilibre pour les gamins. Enfin, c'est ce qu'on a, toi et moi, entendu toute notre vie. Est-ce que ça vient pas jeter l'opprobre sur 100 ans de croyances qui nous disaient que le sport c'était...
À l'évidence, on vit une crise majeure. Il faut en prendre la mesure. On vit une crise majeure, donc il faut qu'on soit déterminé. Mais comme je dis, qu'on regarde les choses en face. Je me répète, mais pour vraiment marquer les choses, on doit analyser les racines du mal. Comment on en est arrivé là en pensant qu'on était à l'opposé? On avait vraiment, à l'évidence, une image complètement non le reflet de la réalité, basé sur des grandes valeurs qui nous animent, mais qui avaient à l'évidence un grand décalage, et il faut aujourd'hui qu'on soit totalement déterminé à faire l'analyse et à changer nos pratiques.
Et ça a fait peur donc aux familles, si j'ai bien compris. Donc il y a moins d'enfants, d'enfants qui vont dans des clubs.
Non,
ça c'est pas nous.
Je dis qu'il y a une vraie crainte que quand on confie ses enfants, il faut pas que les parents aient le moindre doute et que forcément l'actualité fait qu'on peut se dire non mais attendez, vous avez bien vérifié que la personne il y a pas de problème. Parce qu'on se retrouve seul ou à peu de nombre avec des enfants qui peuvent bader l'encadrant, et ce qui est normal. On donne beaucoup de confiance à son entraîneur.
Bah, en général, c'est un adulte. On veut lui ressembler si c'est un sportif, par exemple. Hein. C'est vrai qu'en général, quand on est tout petit, on a tendance à aduler.
On a tous voulu ressembler à nos entraîneurs, et effectivement. Et pour certains d'entre nous, enfin moi j'ai croisé dans ma vie des entraîneurs que j'aurais suivi au bout du monde s'il avait fallu, des mecs que je continue à vénérer aujourd'hui qui ont plus d'âge aujourd'hui mais que je vénère encore quand je les croise. Pas sûr que si ces mecs-là à cette époque-là avaient eu un comportement déviant, on l'aurait appréhendé quoi.
Mais aujourd'hui, on doit arrêter la passivité et c'est venu le temps de la reconquête. Je pense qu'on le doit en premier aux victimes. On le doit à tous les éducateurs qui se donnent, mais qu'on soit professionnel ou bénévole, on se donne au sport. On le doit aux familles, et je pense qu'on le doit au sport, au beau sport qui nous anime. On se doit aujourd'hui d'arrêter d'être passif et de repartir à la reconquête.
Allez, on va mettre une petite page musicale, et puis après on essaiera de retourner sur un sujet un petit peu plus léger. En tout cas, c'était bien de parler de ce sujet parce que c'est malgré tout c'est important et ça fait aussi partie du sport malheureusement.
musique.
Sport sur RTVFM.
Allez, de retour ici au studio avec notre invité Roland Davo, le président du CDOS, Comité départemental olympique et sportif. C'est le patron du sport dans le département. Et je suis sûr qu'il est un peu même patron du sport ailleurs aussi, mais il veut pas le dire. Roland, après ce sujet un peu lourd, mais ô combien nécessaire. Si on parlait un petit peu de ce qui va se passer dans 4 ans en France, les Jeux de Paris, le Paris 2024. Je crois savoir que tu as quelques responsabilités dans cette organisation. En tout cas, tu es le référent, c'est ça?
Absolument. Dans chaque département de France, le président du CDOS est le référent correspondant pour les Jeux de Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques. Et notre responsabilité, je serai à Paris le week-end prochain. On travaille. Alors, juste avant, une petite parenthèse, faut pas qu'on oublie qu'on a des Jeux Olympiques dans six mois,
oui,
à Tokyo.
Tokyo,
ouais.
Et que je pense aux sportifs, c'est vrai qu'en France, et le mouvement sportif, on est totalement tourné vers 2024.
Ouais, ouais.
En oubliant 2020. Il y a quand même des sportifs aller aux Jeux Olympiques et peut-être
qui
gagner.
Se préparent comme des,
il
comme
faudrait
des
pas dingues, que ouais. Ça soit une demi-médaille de faire une médaille aux Jeux de Tokyo. Mais oui, on est tourné et l'objectif, c'est comment accueillir cet événement hors norme planétaire qu'on n'aura pas accueilli depuis 100 ans en France pour en faire un pour remettre encore davantage d'activités sportives, d'activités physiques dans le quotidien des Français et pour moi des Vauclusiens. C'est une occasion hors norme, notamment avec le label Terre de Jeux. Aujourd'hui, il y a deux collectivités territoriales qui ont obtenu ce label, c'est le département de Vaucluse et la ville d'Avignon. C'est pas un label qui honore quelque chose qui a été fait, c'est un label qui engage à mettre plus de sport dans le quotidien des gens. Et que naturellement, le mouvement sportif, on se propose aux collectivités pour mettre en place un certain nombre d'actions, pour mettre davantage d'activités sportives, et qu'on ait une montée en puissance dans les 4 ans à venir. On va pas tout faire en 2020 ni en 2021, mais dans quelques jours, je dois, je l'espère, signer une convention avec le DAZN, le représentant de l'éducation nationale sur le département, concernant le label Génération 2024, pour mettre davantage de sport aussi à l'école. C'est que très souvent, les premières émotions qu'on vit à travers c'est le sport, c'est à l'école. Donc c'est un élément qu'il faut pas rater. Donc il faut vraiment qu'on puisse davantage, et cette convention, elle permettra aussi aux associations sportives de davantage être en lien avec les écoles. On peut voir aujourd'hui que les écoles sont pas forcément toujours ouvertes aux clubs sportifs, en pensant qu'ils ne sont pas là pour trouver des joueurs ou des pratiquants. Mais aujourd'hui, si on veut relever aussi le défi de la sédentarité, il faut aussi que l'ensemble de la communauté éducative, bien sûr l'éducation nationale, mais le sport fait partie du temps de vie de l'enfant, pour qu'on puisse avoir davantage de liens, pour pouvoir par les premières émotions qu'on peut vivre à travers le sport, mais aussi il y a quelques jours, on était sur la semaine olympique et paralympique. C'était les cours d'histoire, ils utilisaient les Jeux Olympiques pour parler d'histoire, notamment la montée du nazisme en Allemagne 36. Avec 36, comment faire des exercices de mathématiques avec le chronométrage, avec les statistiques. Donc le prétexte est le sport et les Jeux Olympiques, mais on peut avoir tout un tas d'applications là-dessus, et dans les établissements scolaires du département et partout en France, ça a travaillé sur ces questions. J'ai tourné dans tout le département, on était à Sceaux, à Avignon, à Carpentras, et partout sur le département, plutôt là sur collège et lycée.
Et pourtant, avec... je pense que c'est plus bas qu'il faut commencer au niveau du sport, parce que l'enfant, si tu commences déjà au collège, il commence à dire...
Non, mais il faut jamais me contredire.
Bah bon.
Non, je plaisante.
Est-ce que
la semaine olympique et paralympique, c'était un dispositif particulier avec l'UNSS dans les collèges et les lycées. Mais par exemple, on a une activité forte avec l'UCEP, qui est davantage le sport. Et que le monde du sport, on était quand même très tourné vers l'UCEP et les écoles publiques. Et qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas le monde olympique sur le débat école publique, école libre. Ce qui nous intéresse, c'est les enfants et développer la pratique. Donc, on est en train de s'ouvrir, notamment avec Luxel, qui est le pendant de l'UNSS dans les écoles privées. Donc, on s'ouvre beaucoup. J'ai rencontré Monsieur Marquis quelques fois, qui est le responsable départemental, pour qu'on s'ouvre aussi et qu'on permette à l'ensemble des jeunes sportifs. Et on aura, nous, aux alentours, ça sera le 17 juin, la journée olympique, qui est là avec les écoles primaires de tout le département. On espère 1500 enfants sur Avignon pour aussi faire un grand événement. On célèbre la création du Comité international olympique le 23 juin 1896. Et voilà, ça permet de promouvoir l'olympisme, les valeurs, mais de mettre l'ensemble des jeunes Vauclusiens. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler aussi sur tout un tas d'animations à venir, parce qu'il y a les enfants, mais pour l'ensemble des Vauclusiens, puissent se mettre au sport et puissent vivre la fête olympique.
Mmh. On a l'impression, excusez-moi Valérie, que ces Jeux olympiques, moi quand j'étais gamin, je suis né en 67, j'ai souvenir de quelques images qu'on voyait des Jeux de 72. Alors on ne parle pas de ce qui s'était passé pendant ces Jeux, mais j'ai des images moi de très fortes de d'aviron, de machin. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gamins sont moins concernés par les Jeux. Moi, quand j'avais en 76, par exemple, j'étais à fond là-dedans, quoi.
C'est vrai qu'on regardait à la télé.
Ouais, Montréal. Guy Drut, c'est la seule médaille d'or française de cette année-là. Mais sûrement, on a à peu près le même âge. T'as sûrement été.
Je suis beaucoup plus jeune.
Pardon. Excusez-moi, monsieur Davo. Non, mais on a été bercé par ces images-là. On a l'impression que les gamins, à force de recevoir trop d'images et trop de d'infos de toutes parts, ils sont moins attirés par ce truc-là. T'as cette impression quand tu vas dans les écoles, quand tu vas dans les, ils sont moins concernés par les jeux.
Alors oui. L'attrait des Jeux Olympiques, qui reste quand même l'événement planétaire par excellence, on a pu analyser que sur les jeunes, il y avait un peu moins d'attrait. Ce qui explique aussi les 4 disciplines additionnelles qui ont été choisies. Je rappelle le surf, l'escalade, le breakdance et le skateboard. C'est vraiment pour aussi ouvrir une autre partie du programme olympique à une jeunesse avec des disciplines qui font plus jeunes, pour ramener aussi la jeunesse au programme olympique. Après, ça sera vraiment aussi les jeux connectés. Et ça, c'est très important. Ça sera la première fois qu'on pourra faire tous une épreuve des Jeux Olympiques. Alors, ceux qui en sont capables, le marathon. C'est qu'une heure après le marathon olympique, on fera, en gros, il y aura 20 000 personnes qui pourront faire, c'est tous 20 000, ouais, mais qui pourront faire une épreuve olympique sur le même site, sur le même parcours, une heure après les athlètes olympiques. Mais aussi aujourd'hui, l'ensemble des salles de sport où chacun dans son salon, on pourra faire les épreuves de cyclisme, de contrôle à montre, devant son écran, sur son vélo d'appartement. On pourra faire les épreuves d'aviron. Donc ça sera aussi des jeux connectés. Donc ça, c'est aussi une façon de ramener aussi,
du monde,
bien sûr, aujourd'hui le sport connecté fait partie aussi de la pratique du sport, et de pouvoir se connecter à l'ensemble des épreuves, où vous avez peut-être suivi quand il y a la Coupe de l'Amérique ou le trophée,
ouais,
Jules Verne.
Il
y a des applications,
on peut faire ça,
on peut simuler des
virtual regatta, ouais.
Et ben donc il y a aussi d'autres applications. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une ouverture vers le e-sport.
Justement.
Oui, mais est-ce que ça va pas aller vers l'individualisme, ça? Parce que là, il y a plus de relations, il y a plus rien. C'est chacun chez soi avec son jeu là, vidéo.
Ouais, charge après.
Moi personnellement,
charge après aux organisateurs de créer.
Ça me stresse plus qu'autre chose. Je préfère aller dans une salle ou aller dans courir, m'éclater plutôt que de regarder la télé comme ça.
Charge aux organisateurs de créer des fan zones ou des spots où les gens pourront se retrouver. Tu peux choisir de regarder la Coupe du Monde de football seul devant ta télé. Tu peux aussi choisir d'aller festoyer avec 10 000 personnes, boire des bières et faire le con. Enfin, quelque part.
En fait, ça explique pourquoi j'aime venir dans votre émission. C'est qu'on peut se contredire, voilà, et dire vraiment ce qu'on pense. La question de la console du e-sport est un vrai débat en ce moment au sein du mouvement sportif et du mouvement olympique.
Il a même été question d'intégrer une paire de.
Oui, mais il y aura au Jeux de Tokyo, alors hors programme olympique, une épreuve sur deux jeux avec une dotation de 500 000 dollars par. Moi, j'aime regarder les choses en face. Aujourd'hui, le e-sport, il existe.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais...
Et que soit le mouvement sportif, on se dit ça, c'est pas du sport, avec une forme de dédain, et ça continuera à se développer, soit, comme moi, je le pense, il vaut mieux ouvrir les bras et organiser les choses.
Non, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, Roland. Partager, c'est une chose, hein. Donc, il faut tout accepter. Et après, analyser et faire.
Je dis pas accepter, j'ai dit ouvrir les bras. Et pour moi, le e-sport, il faut mieux l'accompagner en disant pas plus de tant d'heures de console, voilà, par jour, en y ajoutant de l'activité physique. Mais il vaut mieux l'intégrer que de le subir.
Mmh. Roland, si tu veux bien, on va faire une petite pause et on va revenir après sur l'olympisme. On a Jérôme Alonso, l'entraîneur de Carpentras 13 au téléphone. Et je crois qu'il a des trucs à nous dire lui aussi. Jérôme.
Salut Jérôme.
Jérôme, tu es là?
Oui.
Salut Jérôme, comment tu vas?
Salut tout le monde, ça va, merci.
Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?
Un match sans.
Ce qui s'est passé, que je pense qu'on est, on est resté à Carpentras. On a fait un long match dans tout, en défense, en attaque, dans tout. Et donc j'ai pas compris, parce que franchement, on avait fait une semaine de travail, je pense la plus aboutie depuis le début de la saison. On avait fait un déplacement où franchement, tout le monde était à l'heure, tout le monde, un échauffement parfait. Donc j'avais dit à Max avant le match, soit on a un déclic et on gagne, soit on en prend 60. Donc je pense qu'on n'a pas eu le déclic.
La bonne
mais
nouvelle,
voilà,
c'est
donc non, on a tombé aussi sur une bonne équipe de Pia, il faut le dire. Après, bon, on sait aussi que quand il arrive des choses, bon, il y avait le petit Cabestany qui joue à Pia, et quand il arrive des choses comme ça, ça ressoude une équipe,
ouais,
il avait à cœur de...
Bien sûr.
De bien faire pour lui, donc il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis pour faire un gros match, et le seul qui n'a pas été au rendez-vous, c'est nous.
Mmh. Est-ce que on ne touche pas un peu sur ce genre de match-là, les limites de ton groupe? Tu le sais, toi, depuis le début de la saison, mais ton groupe, il est un peu à réaction ou parfois à l'inaction. Là, c'était le cas aujourd'hui, hier, pardon.
Ouais, voilà, hier, honnêtement, on a été dépassé dans tout, dans l'envie, dans l'application, dans la discipline, dans tout. Donc après, t'essayes d'analyser le truc. Bon, c'est compliqué à chaud d'analyser une telle défaite. Maintenant, connaissant mes joueurs aussi, en sachant que c'est quand même relativement jeune, excepté 2-3 joueurs, après tout le reste, c'est entre 18 et 24 ans, je pense que dans un coin de leur tête, ils avaient, pour certains, de toute façon j'en ai parlé ce matin avec certains, ils avaient déjà le match de la semaine prochaine en tête, et ça on n'a pas le droit au rugby. Au rugby, il faut être prêt sur le match du jour et pas penser à la demi-finale de la semaine prochaine.
Comme d'hab, j'allais te dire, tu prends une valise juste avant un match important. On a l'habitude presque de ça avec ton groupe. Là, ça fait une paire d'années qu'on en parle tous les deux. Mais souvent, avant des échéances importantes, tu as ton groupe a souvent une baisse et un non-match la semaine d'avant.
C'est ce qui est un peu incompréhensible et qu'on a du mal à s'expliquer. Maintenant, c'est vrai que par le passé, même cette année, en début de saison, on est arrivé à réagir. Là, il va falloir être très costaud mentalement, physiquement et dans nos têtes, parce qu'on va quand même chez Villefranche qui fait figure d'épouvantail dans notre championnat. Donc on sait que ça va être très très compliqué. Maintenant, nous, on va mettre toutes nos chances de nos côtés. Les dirigeants font l'effort. Les deux présidents payent l'hôtel donc pour partir la veille. Pas avoir 5h30 de bus dans les jambes. Donc voilà, on va se remobiliser. On a commencé à se remobiliser hier dans les vestiaires à la fin du match où j'ai les soi-disant leaders et qui m'apportent pas ce que j'aimerais qu'ils m'apportent. Maintenant, j'espère que la piqûre de rappel va marcher parce que, bon, en plus hier, malgré la lourde défaite, moi, ce qui me fait le plus chier, excusez-moi du mot, c'est la blessure de Paulin Jurka qui va manquer la fin de saison alors que ce jeune de 18 ans, c'était notre meilleur avant depuis le début de la saison.
Bien sûr.
Donc ça c'est problématique. En plus voilà, on a ramené des petits bobos qu'on ramène jamais, mais comme je leur ai dit, quand on n'est pas à 100% dans un match de rugby, c'est pas possible de revenir entier, c'est la meilleure façon pour se faire mal, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a pris une bonne gifle. Mais on m'a toujours dit que quand tu prenais une gifle, il fallait pas tendre l'autre joue, donc on va essayer de pas tendre l'autre joue. On va faire en sorte cette semaine de remettre les choses dans le sens et en espérant que voilà, qu'on montre un autre visage, parce que là, honnêtement, c'était pas, même si je le redis, Pia est une bonne équipe, c'était pas le vrai visage de Carpentras.
La bonne nouvelle, c'est que malgré tout, dans ce championnat, il y a d'autres équipes qui ont perdu et ça vous maintient malgré tout plutôt pas mal sur le. Au classement général, vous êtes toujours second.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, comme j'ai dit, voilà, on a perdu une bataille hier. Maintenant, il faut savoir que bon, dimanche, Pia va jouer son match de retard à Toulon, donc sauf cataclysme, ils devraient nous passer devant. Mais après, voilà, après ils vont enchaîner. Il va falloir qu'ils aillent à Bao, il va falloir qu'ils aillent à Villegayen. Ils vont avoir des matchs aussi importants que nous. Donc voilà, ça va être un beau sprint final. Maintenant, nous, on savait qu'on avait un mois de mars très très compliqué. On s'est loupé sur la première marche, maintenant espérons qu'on va gravir les autres de la meilleure des façons.
Toi aussi, t'as toujours un match de retard, non? C'est ça? T'as 13 matchs?
Ben ouais, si tu veux, bon, par rapport à Villefranche, oui, puisqu'on a été exempt, nous, à la première journée. Bon, maintenant, comme je disais hier, c'est vrai que Villefranche ont un calendrier retour compliqué, puisqu'ils doivent aller à Bao, ils doivent aller à Villegayen, ils doivent venir chez nous. Donc c'est pas facile non plus, mais franchement, je pense qu'ils ont quand même fait le break et moi je regarde plus derrière que devant.
Ouais, Bao et I qui sont pas loin de toi.
Voilà, Bao qui revient bien. Bon, après Bao, j'en parlais un peu hier avec l'entraîneur de Pia. Bon, ça, voilà, ça fausse un peu le championnat, puisque ils ont mal commencé. Là, maintenant, tous les dimanches, ils sont renforcés par les joueurs de l'UTC. Donc, automatiquement, ben, ils reviennent au classement. Donc, c'est un peu dommage, parce que le championnat, cette année, est homogène. Et bon, après, au pire, c'est pas plus mal, puisqu'après, pour les phases finales, ils pourront pas les faire jouer. Donc, je trouve que c'est pas trop bien pour les jeunes du club et ceux qui ont tenu la baraque pendant qu'ils avaient tous ces blessés et ces suspendus.
Écoute Jérôme, merci pour ta disponibilité encore une fois et merci pour ta libre parole. J'ai l'impression que ça va ronfler demain dans les vestiaires à la Roseraie.
Ouais, ça va ronfler dans les vestiaires. Bon après ronfler, voilà, je leur ai expliqué dimanche comment ça allait se passer. Ça va plus ronfler demain sur le terrain parce que maintenant il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes. Ça fait un petit moment que j'ai beaucoup de joueurs qui veulent m'expliquer le rugby. Donc j'ai été gentil jusqu'à maintenant. Et maintenant ils vont arrêter de m'expliquer le rugby, ils vont me montrer ceux qui sont capables et ceux qui ne sont pas capables. Ben, comme j'ai dit, on s'en passera. On a un groupe cette année qui est homogène, où on peut se permettre de faire sauter des joueurs. Donc voilà, ceux qui ne seront pas remis en question, puisque je pense que hier tout le monde devait se remettre en question parce qu'accepter Théo Jourdan, Mohamed Vida et Shafik Zahiri, qui pour moi hier ont été exemplaires. Les autres ont été catastrophiques. Donc il faut que les joueurs fassent leur propre autocritique. Moi j'ai fait la mienne. Donc on va avancer. Et je pense que franchement on va faire un gros match à Villefranche dimanche.
Merci Jérôme et bah écoute, on se rappellera lundi soir. Tu nous annonceras que t'es qualifié pour la finale de la coupe
voilà.
Et puis on boira une bière, non?
Ouais, c'est clair.
Allez, c'est clair. Salut GG, à bientôt, merci.
Allez, bonne soirée à tout le monde.
Ciao, merci. Au revoir. Bah, écoute, encore une fois, il n'envoie pas le voisin dire les choses, Jérôme. Tu suis un peu le rugby à 13, Roland?
Bien sûr.
Et tu supportes Carpentras?
Je supporte les clubs vaucluviens.
Ah pardon, c'est vrai.
Oui, nous on a une petite préférence, mais bon, non, toi t'es Entraigues.
Non. Alors écoute, moi...
Bédarid, Entraigues.
Non, moi je suis éducateur à Bédarid à 15, mais je suis aussi trésiste de cœur. Et effectivement, Carpentras, c'était pas mon club.
C'est normal.
De cœur, mais voilà, j'apprécie, il y a plein de gens que j'apprécie dans chaque club, donc... Et Jérôme fait partie de ces mecs-là, et voilà. C'est...
Vous savez, je suis souvent invité, mais que au match de gala. Et ce week-end, j'ai souhaité aller voir la demi-finale du championnat de basket des U20, au Ponté. C'était le Ponté contre Carpentras. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on ne voit que l'élite, on a une vision qui est biaisée,
complètement tronquée, bien sûr.
Et je trouve que quand on parle au nom de tout le monde, c'est bien aussi de se rappeler que c'est les clubs qui font le sport. C'est pas ceux qui portent des cravates comme moi. On est là pour parler au nom de tout le monde, mais pour pas se rappeler que le sport, il est fait par les sportifs et sur le terrain et à tous les niveaux. Donc j'essaie d'aller voir un peu tous les niveaux de pratique et de tous les âges pour aussi comprendre ce qui se passe bien et voir comment on peut aider le plus possible.
Tiens, tu me tends une perche là et après on essaiera si on a le temps de revenir sur les jeux. Mais le sport dernièrement est gangréné. Enfin, alors là. Dans le rugby, c'est très prégnant ces derniers temps, mais est gangréné par une espèce de violence à des niveaux qu'on a rarement vu. Les cadets de Bédarid se sont fait massacrer du côté de hier là ce week-end avec des agressions presque immondes, quoi. Un mec a pris des coups de pompe dans la tronche. On voit de plus en plus ce genre de comportement sur les terrains, quel que soit le sport d'ailleurs, hein, on a vu ça au basket, on voit ça au foot, au rugby à 13, enfin de partout. Quel levier on peut avoir quand on est le président du CDOS? C'est d'abord fédéral ça, mais est-ce que il y a pas...
Il y a une responsabilité. Alors moi, je vais répondre un peu à la place de Roland, si tu le permets, Roland. Moi, je dis
non,
déjà,
non,
je réponds à ton truc,
là.
C'est d'abord. Non, mais d'abord, il y a une responsabilité du club et des encadrants.
Non.
Parce que quand un gamin qui n'a pas 15 ans ou 16 ans, qui met un coup de boule à un joueur, à un autre joueur, ne me dis pas que l'encadrant ne l'a pas déjà perçu tout au long de la saison.
on parle pas. Là, on parle là en l'occurrence sur l'exemple que je citais et qui me concerne, c'est les cadets de Bédarrid. On parle de gens autour du terrain qui rentrent après les bagarres entre joueurs, ça a toujours existé. Enfin, j'en ai connu, oui. et des belles en plus à Carpentras. Il y en a toujours eu.
Donc tu parles de supporters qui viendraient. C'est pas d'aujourd'hui, ça date
de ce qui gangrène le oui. sport et l'entourage.
Moi, ce que je constate, c'est qu'on a une montée de la violence dans la société.
En général,
le sport n'est pas épargné par la violence.
On est moins tolérant, moins. Donc ça aussi, ça ne fait qu'augmenter la violence.
Après, il y a la violence sur le terrain, dans les tribunes et parfois à l'extérieur des stades.
C'est celle-là qui est dangereuse.
Enfin, c'est les trois, oui. mais qui ont des racines un petit peu différentes. Et des responsabilités aussi qui peuvent être partagées. À la fois, les violences, c'est la responsabilité de l'État et de la police, mmh. du maire sur les installations sportives, et bien évidemment de la présidente ou du président du club, qui peuvent pas se dédouaner, de leurs responsabilités. Après, ce que j'espère, c'est l'exemplarité déjà sur le terrain peut être aussi contagieuse dans les tribunes et plus loin. La rivalité, elle fait partie du sport.
Bien sûr, c'est ce que je disais. On a toujours. Je ne vais pas jouer au vieux con, mais on s'est toujours battu sur un terrain de rugby, même avant, presque beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais ça restait sur le pré. Il n'y avait pas ces débordements.
Enfin, t'envoyais pas ton collègue à l'hôpital quand même. Si c'était des bagarres, c'était pas des.
C'était pas forcément mieux avant.
Voilà.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit être davantage responsable sur le message qu'on envoie sur la. Forcément, on parle d'une discipline où l'agressivité fait partie aussi.
Non, mais il y a plein d'autres.
C'est un sport aussi de contact, de combat, le rugby.
Il y a plein d'autres sports où on voit ça. On voit ça au foot, au hand.
C'est pour ça que je dis que c'est le sport et aussi à l'image de la société où il y a une grande violence. Et est-ce qu'on est un vrai supporter quand on se comporte de cette façon sur le terrain? Mais c'est un phénomène aussi mondial, hein, quand je me rappelle de l'Euro 2016 avec des pseudo-supporters qui se donnent rendez-vous pour de l'ultra-violence. On a affaire à des phénomènes de violence qui sont très très importants, qu'on est en train d'analyser, qui sont bien analysés par un certain nombre d'experts. Mais c'est des choses où parfois aussi les réseaux sociaux, quand on voit qu'on vient pas supporter, mais c'est prétexte à violence. Donc faut qu'on arrive, encore une fois, on attend du sport d'être meilleur, ce que je souhaite, mais il faut qu'on soit important dans l'accompagnement de tous ces phénomènes.
Ça va être un peu difficile de trouver des solutions quand même à tout ça.
Oui, et puis c'est des solutions dans le temps. Comme on voit, c'est un vieux phénomène qui a parfois à prendre d'autres. Mais finir sur le carreau, en fauteuil, pour sa passion, c'est pas acceptable. Donc c'est vrai que chaque année, on devra y revenir, mais on est là.
Mmh. Ouais. On va terminer sur une note beaucoup, beaucoup plus optimiste. Il y a quelques semaines, 15 jours, je crois, les trophées du sport vauclusien qui se déroulaient à Mazan. Où là, vraiment, ça donne une bonne image du sport. Comment va le sport vauclusien? Parce que on a vu des sportifs qui ont été primés, des entraîneurs qui ont été primés. Bruce Caudron, notamment, a été primé. Les gamines du volet, les moins de 13 de Bédarrid, ont été primés. Ça donne un coup de boost et un coup de bonheur au président du CDOS, non? Ce genre de manif.
C'est une co-organisation du département de Vaucluse et de l'instance olympique, bien évidemment. Et ce qui me plaît dans cette soirée, tu parlais de Bruce. Bruce n'a pas été récompensé en tant qu'athlète.
Non, en tant qu'entraîneur.
Oui, et c'est ça aussi qui est magnifique. Ça a montré,
la passerelle.
Je trouve qu'il en est une parfaite incarnation, c'est qu'il y a eu le moment d'être athlète. Et aujourd'hui, il est en train de trouver une seconde place quelque part, parce que la vie d'athlète est forcément s'arrête à un moment donné, mais une deuxième vie d'éducateur, peut-être un jour une troisième vie de dirigeant. Donc ça, c'est important. Il y a la question de la performance, mais on honore aussi les dirigeants parce que c'est important. Les éducateurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, on a une soirée qui, je crois, montre l'ensemble du sport départemental, que ça soit sur l'engagement féminin, même si on pourrait espérer un jour ne plus avoir de catégorie spécifiquement liée aux femmes, mais à la performance, et qu'honorer la performance, qu'elle soit homme ou femme, serait une très bonne chose. On est encore sur le handicap, mais je pense qu'on est très très fiers. Ça a montré une partie, mais c'est vrai que c'est une cinquantaine de personnes qui ont été honorées, alors que le sport vauclusien, c'est plus de 200 000 personnes, des gens qu'on n'honore jamais. Mais je repense à ce que j'ai vécu ce week-end. J'ai vu des gens qui amènent et qui suivent les gamins sans être jamais mis dans la lumière. C'est pas plus facile, mais moi, je suis derrière le micro avec vous ce soir. On me pose plein de questions. On m'accueille toujours de façon fort sympathique, mais je pense à tous ceux qui sont pas forcément mis dans la lumière, mais qui font le sport des territoires. C'est pour ça que cette opportunité des Jeux Olympiques, ça doit aller aussi avec le renforcement du sport des territoires, parce que le sport, c'est le très haut niveau, mais c'est aussi ceux qui se donnent. Il y a ceux qui pourront être des très grands champions et ceux qui font le sport et qui accompagnent notre jeunesse notamment.
Roland, l'heure passe et malheureusement, on a parlé de sport pendant une heure et c'est passé très très vite. J'aimerais qu'on se retrouve vite, que tu reviennes vite, nous reparler de sport ce coup-ci, vraiment de sport. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de te recevoir ici à ce micro.
Et réciproque.
Tu reviens quand tu veux. Merci à tous. Désolé pour les résultats. Il n'y a pas eu de résultats ce soir. Mais il faut dire que notre ami Roland est particulièrement bavard. Et on prend...
Bavard et intéressant.
Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à l'écouter. Roland, tu reviens quand tu veux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. 18h-19h sur RTV FM.